L'homme qui voulut être roi. Le commencement de tout, ce fut dans le train sur la route d'Ajmir à Mor. Un déficit budgétaire survenu à cette époque nécessitait le voyage non pas en seconde, qui ne coûte que la moitié du prix des premières, mais en classe intermédiaire, ce qui est absolument odieux. Il n'y a pas de banquette rembourrée en classe intermédiaire. Et le public y est soit intermédiaire, c'est-à-dire eurasien, soit indigène, ce qui finit par incommoder au bout d'un autre trajet, soit de l'espèce vagabond, gens d'esprit, quoi qu'ivrogne. Les intermédiaires ne patronnent pas les buffets de chemin de fer. Ils portent leurs vivres dans des paquets ou des pots, achètent des sucreries aux marchands de bonbons indigènes et boivent l'eau le long des routes. C'est pourquoi en été, on les extrait parfois défunts de leur compartiment et qu'en toute saison, on leur témoigne, à juste titre, un minimum de considération. Mon compartiment à moi resta vide par hasard jusqu'à la gare de Nazirabad, où un monsieur de considérable prestance et en bras de chemise y pénétra. Et, selon la coutume des intermédiaires, se mit à continent à l'aise. C'était un errant et un vagabond, comme moi-même, doué par surplus d'un goût cultivé pour le whisky. Il racontait des choses vues ou accomplies en tel coin perdu de l'Empire où il avait pénétré, des épisodes de vie risqués pour la subsistance de quelques jours. Si l'Inde ne comptait que des gens comme vous et moi, qui ne savent pas plus que les corbeaux où ils prendront leur ration du lendemain, ce n'est pas 70 millions de revenus que produirait le pays, mais 700 millions, disait-il. Et à regarder sa bouche et ses mâchoires, je me sentais enclin à partager son avis. Nous parlâmes politique, cette politique des gueux et de leur république qui voit à l'envers des choses, le côté dont on n'a point poli les lattes ni le plâtras. Et nous causâmes organisation postale, parce que mon ami voulait envoyer une dépêche de la prochaine station à Ajmir, où bifurque sur Mor la ligne de Bombay, quand on vient de l'Est. Mon ami n'avait pas d'argent sinon 8 annas qu'il réservait pour son dîner, et je n'avais moi pas d'argent du tout, en raison de l'accroc budgétaire mentionné plus haut. De plus, je m'enfonçais dans des solitudes lesquelles, bien que je dusse y reprendre contact avec le trésor, manquaient de bureaux télégraphiques. Je me trouvais en conséquence parfaitement incapable de lui venir en aide. On pourrait bousculer un chef de gare et lui faire expédier une dépêche à l'œil, dit mon ami, mais il s'en suivrait les enquêtes sur vous et moi, et je suis vraiment trop occupé ces jours-ci. Vous disiez que vous reveniez par la même ligne prochainement ? Dans 10 jours, répondis-je. Vous ne pourriez pas réduire à 8, dit-il. Mon affaire est plutôt pressée. Je puis envoyer votre télégramme dans 10 jours au plus tard, si cela peut vous rendre service, dis-je. Réflexion faite, j'aurais peur de manquer mon homme maintenant si j'envoyais une dépêche. Voilà ce que c'est. Il quitte Delhi le 23 pour Bombay. Cela veut dire qu'il passera à Ajmir dans la nuit du même jour. Mais je serai au fond du désert, expliquai-je. Parfaitement, dit-il. Vous changez à Morwar pour entrer dans le territoire de Jodhpur. C'est nécessaire. Et lui passera à Morwar avec la malle de Bombay de bonne heure dans la matinée du 24. Pouvez-vous vous trouver à ce moment à la gare de Morwar ? Cela ne vous dérangera guère ? Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans ces états de l'Inde centrale, même en se faisant passer pour correspondant du Buckhootsman. Vous y êtes allé de ce truc-là, demandai-je. Des masses de fois. Mais on se fait passer par les résidents et ramener à la frontière avant d'avoir eu le temps d'amorcer. Mais pour l'ami dont je vous parle, il faut absolument que je lui fasse connaître de vive voix ce que je suis devenu, ou bien il ne saura pas où aller. Ça serait plus que gentil à vous si vous pouviez quitter l'Inde centrale à temps pour l'attraper à Morwar et lui dire « Il est allé sud pour la semaine. Il saura ce que ça signifie. C'est un fort bonhomme avec une barbe rouge et distinguée, je vous prie de croire. Vous le trouverez dormant comme un monsieur, tous ses bagages autour de lui en seconde. Mais n'ayez pas peur, baissez la glace et dites « Il est allé sud pour la semaine. » Il se grouillera. Cela ne raccourcit que de 2 jours votre séjour là-bas. Je vous le demande comme à un étranger sur la route de l'Ouest, dit-il avec emphase. Et vous, d'où venez-vous, dis-je ? De l'Est, dit-il, et j'espère que vous lui ferez la commission sans faute, pour l'amour de ma mère comme de la vôtre. L'anglais ne s'émeut guère en général d'entendre invoquer la mémoire de sa mère, mais, pour certaines raisons qui apparaîtront dans la suite, je crus devoir m'engager. Il s'agit de choses sérieuses, dit-il, et c'est pour cela que je vous demande de le faire, et je sais maintenant que je peux y compter. Un compartiment de seconde en gare de Morwar et un homme roux endormi sur la banquette. Vous vous rappellerez bien. Je descends à la prochaine station et il faut que je reste là jusqu'à ce qu'il vienne ou m'envoie ce qu'il faut. Je ferai la commission si je le joins, dis-je. Et pour l'amour de votre mère comme de la mienne, je vous donnerai un petit conseil. N'essayez pas de faire les états de l'Inde centrale en ce moment-ci, à titre de correspondant du Buck Woodsman. Il y en a un vrai qui se balade par là, et cela pourrait mal tourner. Merci, dit-il avec simplicité. Et quand le pourceau s'en va-t-il? Je ne peux pas mourir de faim parce que cela lui plaît de me gâter mon travail. Je comptais empaumer le Rajah de Degumber à propos de la veuve de son père et lui donner le trac. Qu'est-ce qu'il a donc fait à la veuve de son père? Bourré de poivre rouge, pendu à une poutre par un pied et fouetté à mort à coups de babouche. J'ai découvert le poteau rose moi-même, et je suis le seul qui oserait passer les frontières de Degumber pour aller faire le prix de ma discrétion. Ils essaieront de m'empoisonner, comme à Shortunna quand j'allais butiner par là. Mais vous ferez ma commission à l'homme de la gare de Marwar. Il descendit en route à une petite station, et je me mis à réfléchir. J'avais ouï parler plus d'une fois de ces hommes qui, assumant le personnage de correspondant de journaux, saignent les petits états indigènes en les menaçant de scandale. Mais je n'avais rencontré aucun membre de leur caste auparavant. Ils mènent une dure vie et meurent généralement de mort très subite. Les états indigènes professent une salutaire horreur pour les journaux anglais, toujours susceptibles de mettre en lumière la méthode originale de gouvernement, et font de leur mieux pour gorger le journaliste de Champagne ou lui tourner la tête à renfort de landau à quatre chevaux. Ils ne comprennent pas que personne ne se soucie plus que d'une guigne de l'administration intérieure d'un état indigène, tant que l'opposition et la criminalité s'y maintiennent dans des bornes raisonnables, et tant que le chef n'y reste pas sous l'influence de l'opium, de l'eau de vie ou de la maladie d'un bout de l'année à l'autre. Les états indigènes furent créés par la Providence afin de pourvoir le monde de décors pittoresques, de tigres et de descriptions. Ce sont de sombres coins de la terre, pleins d'inimaginables cruautés, qui touchent d'un côté au chemin de fer et au télégraphe, et de l'autre, au jour d'Haroun al-Rachid. En débarquant du train, je m'acquittai de mes affaires avec divers potentats, et passai, en 8 jours, par les phases de vie les plus variées. Tantôt en frac, j'allais de pair et compagnon avec prince et résident, buvant dans le cristal et servi dans l'argenterie. Tantôt vautré sur le sol nu, trop heureux de dévorer la première nourriture venue, un chapati me servant d'assiette. Je buvais l'eau des ruisseaux et partageais la couverture de mon domestique. Tout cela rentrait dans la besogne du jour. Puis, je mis le cap sur le grand désert indien à la date convenue, comme je l'avais promis, et le train de nuit me déposa à la gare de Morwar, d'où un drôle de petit va comme je te pousse de chemin de fer, à personnel indigène, bifurque sur Jodhpur. Le train postal entre Delhi et Bombay fait une courte halte à Marwar. Il arriva, comme j'entrais dans la gare, et j'eus à peine le temps de courir au quai et de scruter les voitures. Il n'y avait qu'une seconde dans le train. Je baissai la glace et découvris une barbe d'un rouge flamboyant à demi cachée par une couverture de voyage. C'était mon homme. Il dormait à poings fermés et je l'ébranlai légèrement d'un petit coup dans les côtes. Il s'éveilla en grognant et je vis sa figure à la clarté des lampes. C'était une large figure à peau qui visait. « Encore les billets » dit-il. « Non, je suis chargé de vous dire qu'il est allé sud pour la semaine. Il est allé sud pour la semaine !» Le train partait. L'embrou se frotta les yeux et répéta. « Il est allé sud pour la semaine ? Ça ressemble bien à son impudence. As-tu dit que je vous donnerai quelque chose parce que je n'en ferai rien ?»« Il n'a rien dit » répondis-je en sautant du marchepied. Les fanaux rouges s'enfonçaient dans la nuit. Il faisait un froid horrible car le vent soufflait de la région des sables. Je grimpai dans mon propre train, pas en intermédiaire cette fois, et m'endormis. Si l'homme barbu m'avait donné une roupie, je l'aurais gardé en souvenir d'une affaire assez curieuse. Mais la conscience du devoir accompli fut ma seule récompense. Plus tard, je réfléchis que 2 compères de l'espèce de mes amis ne feraient rien de bon à jouer les faux journalistes. Ils pourraient s'attirer des difficultés sérieuses au cas où ils voudraient appâter en un de ces petits pièges à rats d'états indigènes de l'Inde centrale et du Ratchapuna. Je pris en conséquence la peine de donner leur signalement, aussi minutieux que le permettaient mes souvenirs, aux gens qui eussent pu avoir intérêt à les déporter, et je réussis, comme je l'appris plus tard, à les empêcher de franchir les frontières de Degumber. Puis je redevins personne respectable et réintégrai mon bureau où ne se produisait ni roi ni incident, sauf la composition quotidienne d'un journal. Un bureau de journal semble avoir le privilège d'attirer une inconcevable variété de personnes au plus grand préjudice de la discipline. Des dames missionnaires arrivent et somment le directeur d'abandonner sur l'heure toutes ses obligations afin de décrire une distribution de prix d'école chrétienne dans l'arrière-faubourg d'un village d'ailleurs parfaitement inaccessible. Des colonels, négligés sur le tableau d'avancement, s'installent et ébauchent les grandes lignes d'une série de 10, 12 ou 24 articles de tête à propos de l'ancienneté et du choix. Des missionnaires exigent de savoir pourquoi ils n'auraient pas le droit de changer pour une fois la nature de leur plainte et d'agonir un collègue spécialement placé sous le patronage directorial. Des troupes de comédiens à la côte envahissent les bureaux à l'effet d'expliquer qu'ils ne peuvent pas payer leur publicité, mais qu'à leur retour de Tahiti ou de Nouvelle-Zélande, ils s'en acquitteront avec usure. Des inventeurs de moteurs à panne patentée, de vis d'attelage pour wagons, de sabres ou d'arbres de couche incassables font visite, des certificats plein les poches et désireux de se voir fixer quelques heures d'entretien. Des compagnies pour la vente du thé entrent, s'assoient et élaborent leur prospectus avec les plumes du bureau. Des secrétaires de comités dansants objurguent avec éclat le rédacteur mondain afin d'obtenir un plus ample compte-rendu des gloires de leur dernier bal. Des dames inconnues font irruption dans un froufrou de jupe et disent « Il me faut un cent de cartes de visite tout de suite, s'il vous plaît !» Ce qui rentre manifestement dans les attributions d'un directeur. Et le moindre, le plus dissolidérifiant qui jamais ait vagabondé le long de la grande route, se fait un devoir de venir demander une place de correcteur d'épreuve. Et tout le temps, le dindon du téléphone tinte frénétiquement. On tue des rois sur le continent, des empires se disent « Vous en êtes un autre !» Et Monsieur Gladstone appelle le feu du ciel sur les colonies britanniques, tandis que les petits types noirs gênent « Happy Shy Aye » on demande de la copie, comme des abeilles lasses, et qu'aux trois quarts, le journal est encore aussi blanc que l'écu de Modred. Mais cela, c'est le moment amusant de l'année. Il y a six autres mois où personne ne vient jamais, où le thermomètre, pouce par pouce, grimpe en haut de l'échelle, où l'ombre, maintenue dans le bureau, permet à peine de lire, où les presses brûlent au toucher et où personne n'écrit guère que des comptes rendus de fêtes dans les stations de montagne ou des notices nécrologiques. C'est alors que le téléphone se transforme en terreur tintinabulante, toujours prêt à vous annoncer les morts subites d'hommes ou de femmes que vous connaissiez intimement. Le prickly heat vous recouvre comme d'un vêtement et l'on s'assied pour écrire. On annonce un léger accroissement dans la mortalité du district de Kudarjantakan, l'épidémie, de nature purement sporadique grâce aux efforts énergiques des autorités locales, est maintenant à peu près vaincue. C'est cependant avec un profond regret que nous enregistrons la mort, etc., etc. Puis l'épidémie éclate pour de bon, et moins on enregistre ou moins on rédige à ce sujet, mieux vaut pour le repos des abonnés. Mais Empire et Roi continuent à se divertir avec autant d'égoïsme que devant. Le chef typographe trouve qu'un journal quotidien ne devrait point en vérité paraître plus d'une fois toutes les 24 heures. Et les gens des stations d'été interrompent leur plaisir pour dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui empêche ce journal d'être brillant? Il se passe bien lâcher de choses ici !» Voilà le côté sombre de la situation, et comme on dit aux annonces, il faut en goûter pour en juger. Ce fut en cette saison, pire que jamais cette année-là, que le journal inaugura le système d'imprimer le dernier tirage de la semaine dans la nuit du samedi, c'est-à-dire le dimanche matin, comme les journaux de Londres. Précieux avantage qui permettait, une fois la copie sous presse, au rédacteur éreinté de commencer dans la fraîcheur du matin un somme avant que la chaleur le réveillât. L'aube fait baisser le thermomètre de 54 degrés à 42 degrés, et l'on n'imagine pas comme il fait froid à 42 degrés à l'ombre quand on n'a jamais prié pour cette température-là. Un samedi soir, il me revint l'aimable obligation d'achever le journal tout seul. Un roi, un courtisan, une courtisane ou une communauté allait mourir. Ou obtenir une nouvelle constitution, ou faire quelque chose d'important pour l'autre côté du monde. Et le journal devait attendre l'imprimatur jusqu'à la dernière minute possible afin d'attraper le télégramme. C'était une nuit d'encre étouffante, une vraie nuit de juin, et le loup, le vent torride qui souffle de l'ouest, bramait dans l'amadou des branches en faisant semblant d'avoir la pluie sur les talons. Par intervalles, une goutte d'eau, presque bouillante, tachait la poussière avec un flop de grenouilles aplaties. Mais dans sa lassitude, notre univers savait bien que ce n'était que feinte. Il faisait une idée moins chaude dans l'atelier que dans le bureau, de sorte que je m'assis là, parmi le cliquetis des machines, les huées des oiseaux de nuit aux fenêtres, les typos à demi nus qui épongeaient la sueur de leur front et demandaient à boire. La chose qui nous faisait veiller, quelle qu'elle pût être, refusait d'arriver, quoique le loup fût tombé. Le dernier caractère en place, et que toute la terre ronde demeura en suspens dans la chaleur suffocante, un doigt sur les lèvres, attendant l'événement. Je m'assoupis tout en me demandant si l'invention du télégraphe constituait en somme un bien, et si ce moribond ou ce peuple en révolte avait conscience du dérangement produit par son retard. Sauf la chaleur et la préoccupation, nulle raison particulière d'énervement. Et pourtant, comme les aiguilles de la pendule rampaient jusqu'à 3 heures, et que les machines essayaient 2 ou 3 tours de volant avant le mot prononcé qui les lâcherait dans leur carrière, j'aurais pu crier tout haut de fatigue. Soudain, le grondement et la crécelle des machines déchirèrent le silence en minuscules lambeaux. Je me levai pour sortir quand 2 hommes vêtus de blanc s'arrêtèrent devant moi. Le premier dit « C'est lui !» Le second dit « Ma foi, oui !» Ils rirent tous deux à couvrir le bruit des presses et en s'épongeant le front. Nous avons vu une lumière de l'autre côté de la route, car nous dormions dans le fossé là-bas pour avoir frais, et j'ai dit à mon copain que voilà « Allons parler à celui qui nous a fait mettre hors de l'état de Degumber, » dit le plus petit des deux. C'était l'homme que j'avais rencontré dans le train de Mao, et son camarade, l'homme à poil roux de la gare de Mao. Il n'y avait pas à se tromper aux sourcils de l'un ni à la barbe de l'autre. Je n'étais pas content, car j'avais plus envie de dormir que de me chamailler avec des vagabonds. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je. « Causer une demi-heure au frais et à l'aise dans le bureau, » dit l'homme à barbe rouge. « Nous ne refuserions pas à boire. » Le contrat n'a pas force encore, Petchy. Ce n'est pas la peine de faire une tête. Mais ce qu'il nous faut pour de bon, c'est des conseils. Nous n'avons pas besoin d'argent. C'est comme une faveur que nous demandons en rapport au sale tour que vous nous avez joué à propos des Degumber. Je montrai le chemin qui passait de l'imprimerie au bureau suffocant, où des cartes pendaient au mur. L'homme rouge se frotta les mains. « Il y a du monde, dit-il. Nous avons frappé à la bonne porte. Maintenant, monsieur, permettez-moi de vous présenter le frère... Pitchy Carnahan, ça c'est lui, et le frère Daniel Dravo, ça c'est moi. Quant à nos professions, moins nous en parlerons, mieux ça vaudra. Nous avons fait tous les métiers dans notre temps. Soldats, marins, typos, photographes, correcteurs d'épreuves, prêcheurs en plein vent, et correspondants du Buck Woodsman les fois où le journal en avait besoin. Carnahan est à jeun, moi aussi. Regardez-nous bien d'abord pour être sûr, ça vous évitera de me couper. Nous allons prendre chacun un cigare et vous tiendrez l'allumette. Je tentai l'épreuve. Les 2 hommes n'avaient pas bu et je leur fis servir 2 pecs tiédissants. À la bonne heure, dit Carnahan, l'homme aux sourcils en séchant sa moustache. Laisse-moi parler maintenant, Dan. Nous avons fait à peu près toute l'Inde, le plus souvent à pied. Nous avons été ajusteurs de chaudières, conducteurs de locomotives, petits entrepreneurs et le reste. Et maintenant, nous avons décidé que l'Inde n'est pas assez grande pour des gens de notre acabit. Ils étaient certainement trop grands pour le bureau. La barbe de Dravo semblait remplir la moitié de la pièce, et les épaules de Carnahan l'autre moitié, ainsi qu'ils se tenaient tous deux sur la grande table. Carnahan continua. Le pays ne donne pas la moitié de ce qu'il devrait, parce que le gouvernement ne veut pas qu'on y touche. Ils passent tout leur sacré temps à gouverner, et on ne peut pas soulever une bêche, faire sauter un éclat de pierre ou forer pour de l'huile sans que le gouvernement crie « À bas les pattes et laissez-nous gouverner !» C'est pourquoi, tel quel, nous allons le laisser en paix et partir pour quelque autre pays où l'on puisse jouer des coudes et faire son chemin. Nous ne sommes pas de petits hommes et nous n'avons peur de rien, que de la boisson, et nous avons signé un contrat sur ce point. Donc, nous nous en allons être rois. Roi de plein droit, murmura Dravo. Oui, c'est entendu, dis-je, vous avez traîné vos guêtres au soleil, la nuit est plutôt chaude, et vous feriez peut-être mieux d'aller dormir sur votre idée. Venez demain. Ni coup de soleil, ni verre de trop, dit Dravo. Voilà 1 an que nous dormons sur notre idée. Nous avons besoin de voir des livres et des atlas, et nous avons conclu qu'il n'y a plus qu'à payer au monde où 2 hommes à poigne puissent faire leur petit Sarawak. Cela s'appelle le Kafiristan. À mon idée, c'est dans le coin de l'Afghanistan, en haut et à droite, à moins de 300 000 de Peshawar. Ils ont 32 idoles, les païens de là-bas. Nous ferons 33. C'est un pays montagneux, et les femmes de ces côtés sont très belles. « Mais ça, c'est défendu dans le contrat, » dit Carnahan. « Ni femme, ni boisson, Daniel. »« C'est tout ce que nous savons, excepté que personne n'y est allé et qu'on s'y bat. Or, partout où l'on se bat, un homme qui sait dresser des hommes peut toujours être roi. Nous irons dans ces pays, et au premier roi que nous trouverons, nous dirons « Voulez-vous battre vos ennemis ?» Et nous lui montrerons à instruire des recrues, car c'est ce que nous savons faire le mieux. Puis, nous renverserons ce roi, Nous saisirons le royaume et nous fonderons une dynastie. Vous vous ferez tailler en pièces à 50 000, passer la frontière, dis-je. Il vous faut traverser l'Afghanistan pour arriver dans ce pays-là. Ce n'est qu'un fouillis de montagnes, de pics et de glaciers que jamais Anglais n'a franchi. Les habitants sont de parfaites brutes, et en admettant que vous arriviez à eux, il n'y aura rien à faire. J'aime mieux ça, dit Carnehan. Si vous nous trouviez encore plus fous, ça nous ferait encore plus de plaisir. Nous sommes venus à vous pour nous renseigner sur ce pays, pour lire des livres qui en parlent et consulter vos cartes. Nous avons envie de nous faire traiter de fous et de voir vos livres. Il se tourna vers la bibliothèque. Parlez-vous sérieusement, pour de bon, dis-je. Un peu, dit Drabo avec onction. Nous voulons voir votre plus grande carte, même s'il y a un blanc à la place du café restant, et tous les livres que vous pouvez avoir. On sait lire, quoiqu'on n'ait pas reçu beaucoup d'éducation. Je dépliai la grande carte de l'Inde à l'échelle de 32 000 au pouce, deux cartes de frontières plus petites, descendis péniblement le tome INFKN de l'Encyclopédia Britannica, et mes hommes se mirent à les consulter. Attention, dit Drabo, un doigt sur la carte. Jusqu'à Jagdalak, Pritchie et moi, nous connaissons la route. Nous sommes allés là avec l'armée de Roberts. À Jagdalak, il faudra prendre à droite à travers le territoire de Lagman. Puis, nous entrons dans les montagnes. 14 000, 15 000 pieds, il fera frais là-haut. Mais ça ne paraît pas très loin sur la carte. Je lui passai les sources de l'Oxus par Wood. Carnehan était plongé dans l'encyclopédia. Ils sont un tas, dit Drabo d'un air méditatif. Et ça ne nous avancera guère de savoir les noms de leurs tribus. Plus il y aura de tribus et plus de batailles, tant mieux pour nous. De Jagdalak à Achang, Mais tous les renseignements sur la région sont aussi superficiels et aussi vagues que possible, protestai-je. Voici la collection de United Service Institute. Lisez ce que dit Belen. Zut pour Belen, dit Carnehan. Dan, c'est un sacré tas de païens. Mais ce livre-ci dit qu'ils sont apparentés à nous autres, Anglais. Je continuai à fumer tandis que les deux hommes s'ensevelissaient dans Ravachi, Wood, les cartes et l'encyclopédia. Ce n'est pas la peine de nous attendre, dit Drabo poliment. Il est 4 heures à peu près maintenant. Nous partirons avant 6 heures si vous voulez dormir, et nous ne volerons pas de papier. Ne veillez pas pour nous, nous sommes de toqués pas dangereux, et si vous passez par le sérail demain soir, nous vous dirons adieu. Certainement, vous êtes fous tous les deux, répondis-je. On vous fera rebrousser à la frontière, ou on vous coupera le cou à l'instant où vous mettrez le pied en Afghanistan. Avez-vous besoin d'argent ou d'une recommandation pour les provinces du Sud? Je peux vous mettre à même de trouver de l'ouvrage la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous travaillerons nous-mêmes et d'attaque, merci bien, dit Drabo. Ce n'est pas si facile d'être roi que ça en a l'air. Quand nous aurons notre royaume et que tout fonctionnera, nous vous le ferons dire et vous viendrez nous aider à le gouverner. C'est-il le toqué qui fera un contrat comme ceci? Dit Carnehan avec une nuance de discret orgueil, en me montrant une demi-feuille de papier à lettres graisseux, où on lisait ce qui suit. J'en pris copie sur le champ à titre de curiosité. Le présent contrat ayant force entre toi et moi, prenant à témoin le nom de Dieu, Amen, etc., etc. 1. Que moi et toi déciderons cette affaire ensemble, à savoir d'être roi de Kafiristan. 2. Que toi et moi ne devrons point, pendant que nous déciderons cette affaire, regarder aucune boisson, ni aucune femme noire, blanche ou brune, de manière à ne pas nous embrouiller à cause de l'une ou de l'autre, ni que mal s'en suive. 3. Que nous devrons nous conduire avec prudence et dignité, et que si l'un se trouve dans l'embarras, l'autre reste avec lui. Signé par toi et moi ce jour, Pitchy Taliaferro Carnehan, Daniel Drabo, gentlemen tous deux, sans profession. Il n'y avait pas nécessité pour le dernier article, dit Carnehan en rougissant avec modestie. Mais ça vous a l'œil plus correct. Vous savez ce que c'est que des loupeurs. C'est ce que nous sommes encore, Dan, avant d'être sortis de l'Inde. Eh bien, croyez-vous que nous aurions signé un contrat comme cela si nous n'avions pas pris la chose au sérieux? Nous nous sommes privés des deux choses qui valent la peine de vivre. Vous aurez vite fait votre deuil de vivre si vous persistez à tenter cette aventure idiote. Ne mettez pas le feu au bureau, dis-je, et partez avant 9 heures. Je l'ai quitté, toujours absorbé dans la lecture des cartes et qui prenait les notes au dos du contrat. Manquez pas de venir au sérail demain, firent-ils comme je partais. Le sérail de Camarsen est le grand égout humain, à 4 murs en carré, où viennent prendre ou laisser leur charge les files de chameaux et de chevaux qui arrivent du nord. On y trouve toutes les nationalités de l'Asie centrale et la plupart des gens de l'Inde propre. Balk et Bokhara rencontrent là Bengale et Bombay, et tâchent réciproquement de s'y tirer les canines. On peut y acheter des poneys, des turquoises, des chats-persans, des moutons à queue charnue ou du musc dans ce sérail de Commerson. On y attrape même plus d'une chose bizarre gratis. Dans l'après-midi, je descendis de ce côté, afin de constater si mes amis tiendraient parole ou si je les trouverais vautrés et ivres-morts. Un mulat, vêtu de bouts de ruban et de loques, s'avança vers moi d'un pas délibéré. Il agitait gravement un moulinet d'enfants en papier. Son serviteur derrière lui, plié sous le poids d'une hotte remplie de jouets de terre. L'un et l'autre s'occupaient de charger deux chameaux, et les hôtes du sérail les regardaient faire en se tordant de rire. « Le mulat est fou !» me dit un marchand de chevaux. « Il va à Kaboul vendre des jouets à la mire. Il se fera élever aux honneurs ou couper la tête. Il est arrivé ici ce matin, et depuis lors n'a pas cessé d'agir comme un fou. » Les simples sont sous la protection de Dieu, bégaya en mauvais hindi un ozbeg aux joues plates. Ils prédisent les choses de l'avenir. Il aurait bien dû me prédire que ma kafila se ferait hacher par les chinoiseries, à toucher l'ombre de la passe, grogna un homme de Justus Fry, agent d'une maison de commerce du Rajputana, dont les marchandises étaient tombées, par grande félonie, entre les mains d'autres voleurs à courte distance de la frontière, et que ces infortunes rendaient le plastron du bazar. « Ouais, mulat, d'où viens-tu et où vas-tu maintenant ?»« De Roum, suis-je venu ?» cria le mulat en agitant ce moulin en papier. « De Roum, poussé par le souffle de 100 000 diables depuis l'autre côté de la mer. »« Oh, voleur, brigand, menteur, la bénédiction de Pyrkhan sur les porcs, les chiens et les parjures. Qui veut emmener le protégé de Dieu vers le nord afin de vendre à l'amir des charmes qui ne vieillissent point ? Leurs chameaux ne souffriront pas, leurs fils ne tomberont pas malades. » Leurs femmes demeureront fidèles pendant leur absence à ceux qui me donneront place dans leur kafila. Qui mènera à chasser le roi des rousses d'une pantoufle d'or à talons d'argent. La protection de Pyrkhan repose sur ses labeurs. Il rejeta en arrière les pans de son caban et pirouetta parmi les rangs des chevaux entravés. Il part une kafila de Peshawar pour Kaboul dans 20 jours, Usrut, dit le marchand de Jusufzaï. Mes chameaux l'accompagnent. « Viens donc avec nous et nous porte bonheur. »« Je partirai tout de suite !» cria le mulat. « Je partirai sur mes chameaux ailés et serai à Peshawar en un jour. »« Oh, Azar Mirkan » hurla-t-il à son domestique. « Fais sortir les chameaux, mais que je monte sur le mien d'abord !» Il sauta sur le dos de la bête agenouillée et s'écria en se tournant vers moi. « Viens aussi, Sahib, suis-nous un peu sur la route et je te donnerai un charme, une amulette, qui te fera roi de Kafiristan. » À ce moment, la lumière se fit dans mon esprit. Je suivis les deux chameaux à la sortie du sérail jusqu'à la grande route où le mulat fit halte. « Qu'en pensez-vous » dit-il en anglais. « Carnahan ne sait pas leur patois, c'est pourquoi j'en ai fait mon domestique. C'est un domestique à la hauteur. Je n'ai pas battu le pays pendant 14 ans pour rien. C'était bien fait, hein, ce bout de causette tout à l'heure. Nous nous collerons à une kafila entre Peshawar et Jacques Dallac. Et de là, nous verrons à échanger nos chameaux pour des bourricots. » et à faire notre brèche en Kafiristan. Des petits moulins pour la mire, ah, mon Dieu! Passez votre main sous les sacs et dites-moi ce que vous sentez. Je tâtai la crosse d'un martini, d'un autre, puis d'un autre encore. Il y en a 20, dit Drabo avec placidité. 20 et des munitions en conséquence sous les petits moulins et les poupées en d'air. Le ciel vous aide si on vous découvre avec ces joujoux-là, dis-je. Un martini chez les patents, cela vaut ce pesant d'argent. 500 roupies de capital. Tout ce qu'on a pu mendier, taper ou voler. Placez là, sur ces deux chameaux, dit Drabo. Nous ne nous ferons pas pincer. Nous passons le Khyber avec une vraie kafila, qui toucherait un pauvre fou de mulat. Avez-vous tout ce qu'il vous faut ? Demandai-je, vaincu par la surprise. Pas encore, mais ça viendra bientôt. Donnez-nous un souvenir de votre obligeance, frère. Vous m'avez rendu service hier et l'autre fois aussi à Marwar. La moitié de mon royaume sera pour vous, comme dit la chanson. Je détachai une petite boussole fétiche de ma chaîne de montre et l'attendis au mulat. « Adieu !» dit Drabo en me tendant la main avec circonspection. « C'est notre dernière poignée de main à un Anglais pour bien des jours. »« Serre-lui la main, Carnahan » cria-t-il comme le second chameau me dépassait. Carnahan se pencha et me serra la main. Puis, les chameaux s'effacèrent dans la poussière de la route et je restai tout seul à m'émerveiller. Mon œil n'aurait pu discerner le moindre accroc dans leur déguisement. La scène du sérail a testé leur perfection pour le jugement indigène. Une chance donc se présentait par Carnahan et Drabo de cheminer à travers l'Afghanistan sans se trahir. Mais au-delà, ils trouveraient la mort, une mort affreuse et sûre. 10 jours plus tard, un indigène de mes amis qui me mandait les nouvelles les plus récentes de Peshawar terminait sa lettre en ces termes. On a beaucoup ri par ici, à cause d'un certain mulat qui est fou et s'en va, assure-t-il, vendre des colifichets et des babioles qu'il appelle des charmes puissants à Sa Majesté l'Amir de Bokhara. Il a traversé Peshawar et s'est joint à la seconde kafila d'été qui va à Kaboul. Les marchands sont contents. Ils s'imaginent par superstition que des fous de la sorte portent bonne chance. Les deux avaient donc passé la frontière. J'aurais prié pour eux, mais cette nuit-là, un vrai roi mourut en Europe qui réclama un article nécrologique.